Merci. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur France Culture, ce sera dans le journal de 22h. Are you racing or watching? Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching? La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Grégoire Di Fiore, et la prise de son est assurée par Inès De Bruyne, la réalisation David Jacoboviez. Une émission un peu particulière ce soir puisque nous vous proposons trois disputes passées concernant des expositions toujours en cours et qui nous ont semblé les plus importantes de ces derniers mois. À notre affiche, étrangers résidents, la collection Marine Carmis à la Maison Rouge, débat avec Corinne Rondeau, Stéphane Coréard et Florian Guettet. Mali Twist, Malik Sidibé à la Fondation Cartier pour l'art contemporain, avec Sandra Adancorale, Yasmine Youssi et Florian Guettet. Et enfin, Irving Penn au Grand Palais avec Corinne Rondeau, Yasmine Youssi et Elisabeth Franck-Dumas. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des places de cinéma pour le film Hearthstone, sorti aujourd'hui dans les salles. Et nous ouvrons cette émission en nous rendant à la Maison Rouge pour découvrir l'exposition « Étrangers résidents », la collection Marine Carmis. Au-delà du fait que le compte à rebours est déclenché avant la fermeture annoncée de ce lieu exceptionnel, penchons-nous donc sur cette nouvelle exposition de collectionneurs comme la Maison Rouge nous y a habitués depuis son ouverture. Cette fois, c'est donc le fondateur du réseau de salles de cinéma MK2 et ancien éditeur de films, comme il aimait à se définir, qui nous propose de découvrir près de 400 œuvres de sa collection débutée il y a une trentaine d'années. Sur cette mélodie de piano, vous pouvez découvrir ce que Marine Carmis collectionne depuis de très longues années. Grande place, on va en parler, à la photographie, mais pas que. Stéphane Coréard, pour commencer.
Oui, alors d'abord, bon, moi, je dis c'est une exposition remarquable, je le dis parce que c'est la première fois que je peux le dire d'une exposition dont j'ai l'occasion de parler ici. C'est une très belle exposition d'une très belle collection.
Non, mais vous inquiétez pas, ça peut recommencer. Hein.
Non, mais je voudrais pas, pour une fois, que je dois faillir à ma réputation. C'est effectivement ouais,
la réputation, il faut surtout entretenir.
Il faut s'en méfier aussi.
Il faut entretenir le fait qu'on ne soit pas là où on nous attend.
C'est une exposition dont Marine Carmis, c'est à la fois le collectionneur, le sujet, le scénographe et le commissaire. Donc ça, c'est déjà assez remarquable. C'est parce qu'il y a quand même un distinguo entre la collection de quelqu'un et la manière dont il choisit de la montrer.
Bien sûr.
Et là, Marine Carmis dit que c'est 25% de sa collection. Donc il raconte effectivement une histoire, et cette histoire est universelle. Ça m'a fait penser au beau titre du livre de Gertrude Stein, l'autobiographie de tout le monde, parce que c'est à la fois un autoportrait. Toute collection sans doute est un autoportrait, mais celle-là sans doute plus qu'une autre. Mais en même temps, c'est une histoire terrible et répétitive de l'Occident au XXe siècle, qui est en même temps qui croise l'histoire personnelle de Marine Carmis. Dont notre confrère François Sureau a dit dans La Croix, j'ai noté la phrase parce que je la trouve très belle, qu'il est issu d'une dynastie que la Shoah a pour l'essentiel anéanti et le communisme a fait le reste. C'est effectivement deux thèmes qui sont très présents dans l'exposition. L'exposition est bâtie en quatre temps, on va dire. Il y a d'abord un long travelling, ce fameux couloir d'entrée la Maison Rouge, dont certains visiteurs de l'exposition ont qualifié de couloir de la mort. Ensuite, il y a une grande partie autour de la Shoah, on va dire, pour dire les choses rapidement, on va y revenir en détail. Ensuite, il y a le côté un peu couvent San Marco de Florence, qui est une référence assumée pour Marine Karmitz, où il y a une allée avec des cellules latérales qui sont dédiées à des photographes, à des monographies de photographes. Et puis ensuite, après un petit passage, on arrive aux installations finales qui sont plus plus volumineuses. C'est effectivement une exposition que j'ai trouvée assez assez remarquable parce qu'elle n'est pas manichéenne, même si elle traverse toutes ces histoires. Elle est largement dominée par la photographie noir et blanc que Marine Karmitz collectionne depuis une vingtaine d'années maintenant, 20 ou 25 ans. Ce qui est assez remarquable notamment, c'est qu'elle nous fait découvrir beaucoup de photographes, c'est-à-dire qu'il y a des grands noms, évidemment beaucoup de grands noms sont là, mais il y a aussi beaucoup de photographes moins attendus, ce qui est toujours intéressant aussi dans une collection qui ne se contente pas d'aligner des stars du marché, même si ici il y a Giacometti, Dubuffet, parce qu'il n'y a pas que de la photo, mais il y a aussi Man Ray, mais aussi des photographes beaucoup moins connus, mais surtout parce que j'ai trouvé que l'exposition n'est pas manichéenne, c'est-à-dire qu'à la fois elle aborde des thématiques très lourdes, mais je trouve toujours avec un regard multiple et aussi actuel, parce que donc elle parle de ces grandes tragédies du XXe siècle, mais elle rappelle toujours leur résonance dans l'histoire actuelle et de qui introduit, je trouve, une complexité qui souvent est intéressante et donne matière à réfléchir du grain à moudre, comme on dirait. Par exemple, dès l'entrée, on a les immigrés aux USA photographiés par Kartesh, qui sont le point de départ de l'exposition, et en parallèle, les habitants d'une banlieue populaire d'Atlanta, photographiés par Michael Ackerman, il y a 15 ans. Voilà.
Je voulais ça, juste... c'est l'entrée. Oui,
non, justement, avant l'entrée, alors là, j'ai quand même mené mon enquête parce qu'il y a une œuvre très singulière qui ouvre l'exposition. C'est un rideau, un peu un rideau comme dans le sud, comme ça, de fil, sur lequel est projetée une image noir et blanc en boucle, qui est une image d'un tourniquet qui est extrait d'un film de Murnau. Le dispositif a été fabriqué par Christian Boltanski à la demande de... je crois sur une idée de Marine Karmitz. Et ce qui est très intéressant, c'est que cet extrait donc du
Dernier des Hommes,
Dernier des Hommes de Murnau, effectivement, qui est et cette scène précise dans le tourniquet, puisque c'est l'histoire d'un groom d'hôtel qui est en pleine ascension sociale, mais qui va redégringoler. Et cette scène dans le tourniquet, c'est là où cet homme rencontre celui qui va le remplacer, et lui va retourner finalement dans sa basse extraction. Et lui, je voulais juste dire l'unique intertitre de ce film, qui débute le film de Murnau, c'est « Aujourd'hui, tu es le premier estimé de tous, un ministre, un général, général, peut-être même un prince, sais-tu ce que tu seras demain ? Je crois que c'est vraiment la question de l'exposition.
Corinne Rondeau.
Qui est aussi le titre du film Le Dernier des Hommes.
Ouais.
Et effectivement, d'abord, il y a une image de 1938 de André Kertész, et c'est un juif East River sur le bord à New York. Qui est la date de la naissance de Marine Karmitz. Effectivement, ce travelling dont vous parlez, mais c'est aussi, je dirais, une manière d'être dans le noir qui commence. Parce que les images, notamment sur notre droite, qui font une ligne horizontale, qui vont nous conduire avec l'autre ligne, qui est le livre Smoke, livre d'artiste, qui est déplié tout le long, qui est assez magnifique, je veux dire. Cette dimension du tirage photographique du noir, cette densité du noir, ces visages qui sont tremblés pour la plupart ou flous, ont une telle intensité de noir avec cet homme, East River, 1938, qui est de dos et qui est une manière de nous dire, je ne crois pas que ce soit du tout le couloir de la mort. Je crois qu'au contraire, c'est une manière de rentrer dans quelque chose dont on nous demande de regarder et de garder le silence. Ça, c'est pour les spectateurs qui auraient dit effectivement que ça serait le couloir de la mort, comme vous venez de nous le dire, hein, Stéphane. Et c'est une manière effectivement de nous conduire par les États-Unis, c'est-à-dire une terre déjà d'émigration très forte. On se rappellera quand même le livre formidable de Georges Perec, Récit d'Ellis Island, Histoire d'errance et d'espoir, hein, où on retrouve les photographies de Lewis Hine qui sont à la fin de ce couloir notamment, avec justement diaporama de ces plaques dont il a vraiment, on a la boîte là, etc. Et puis on a un théâtre d'ombres qui sont là pour le coup assez inattendus, de Kara Walker. C'est un village africain en feu, grande maison et pendaison, donc qui dit effectivement le pouvoir de certains hommes sur d'autres, mais en même temps c'est aussi la vie, puisque le livre de Michael Ackerman, c'est quelqu'un qui va mourir du sida, un chanteur en l'occurrence du groupe Smoke. Et je dirais que quand moi je suis arrivée au bout de ce couloir, je me suis dit, bon là Corinne, il est clair que d'abord, tu ne vas pas rien, tu ne vas pas t'amuser. Mais par contre, ce qui est le plus important, c'est de prendre le temps de regarder, de garder le silence. Parce que ces images te demande le temps de les regarder. Et je crois que c'est ça qui est le plus important dans cette exposition. Parce que je suis d'accord avec vous, c'est une exposition absolument remarquable par l'éclairage. J'ai jamais vu à la Maison Rouge un éclairage aussi extraordinaire.
On ne reconnaît pas la Maison Rouge, ce qui est un compliment de Marie Kermitz.
Oui, c'est beau aussi. Mais c'était aussi bon que la première exposition qui était sur l'intime de Gérard Wachsmann. Et là où on est vraiment dans un univers et on vous dit, bon, maintenant, ou tu le traverses ou tu ne le traverses pas. Et je crois qu'en fait, cette exposition, c'est une manière aussi de traverser, vous l'avez dit, sans doute un siècle, puisque c'est aussi un enfant du XXe siècle. Mais ce n'est pas que ça, je dirais qu'il y a le médium photographique qui est le plus important de tous les médiums. Il y a la figure humaine qui est quasi là, il n'y a que ça quasiment. Beaucoup d'enfants, et ils ne rient pas eux non plus. Ces enfants, ces hommes et ces femmes, voilà, à Ellis Island notamment, mais aussi effectivement Auschwitz, Dagata, etc. C'est pas par contre des œuvres que j'aime bien, vous voyez. Mais par contre, ça a une dimension remarquable parce que il est là pour... Moi, j'ai pas eu la sensation de voir une collection. J'ai eu la sensation d'être emportée dans un musée où on retraverserait non pas l'histoire, mais par contre le fantôme de l'histoire. Et partout dans le musée, l'exposition.
Oui, moi, j'ai appelé le musée Kermitz tout de suite quand je suis sorti de la Maison Rouge.
C'est évident. Dans l'exposition, et si on se rappelle de Chris Marker en bas, il y a un moment donné, il dit, vous rappelez-vous de l'homme invisible. Eh bien, dans l'exposition, il y a l'homme invisible, c'est-à-dire l'homme qui n'a pas d'ombre. Et Marine Kermitz a fait une exposition avec des œuvres dont les photographies sont d'une telle densité, dont le noir est si fort que ces expositions, j'ai eu l'impression que ce qu'il collectionnait, c'est une manière de lester son propre corps d'une ombre. Et ces photos, c'est pas que de la trace, c'est une manière de nous renvoyer un négatif mais matérialiste. C'est-à-dire que il s'accroche et je crois que ça lui donne un corps et un regard. Et la dimension du regard, elle est à l'intérieur d'un passage dans la Maison Rouge avec des yeux là qui regardent. Et c'est aussi nous dire qu'est-ce que vous regardez. Alors je me disperse parce que je suis très enthousiaste sur cette exposition et je suis aussi très émue par l'exposition et parce que j'ai eu l'impression qu'on pourrait passer plus de 29 ou 24 heures et venir une journée entière dans une cellule. D'ailleurs, si Marine Kermitz veut bien m'accorder une nuit dans une cellule avec une porte, je le ferai avec plaisir. Parce que pour moi, il y a à parler d'une cellule ou d'une œuvre et de rien d'autre. Et d'une certaine manière, c'est aussi ramener la question du Talmud dont Eri De Luca en parle dans le catalogue. Il fait une belle référence. Il dit tant qu'on a les mots dans la bouche, attendez, je l'ai noté pour pas dire de bêtises. On est maître des mots tant qu'on n'ouvre pas la bouche, mais dès qu'ils en sortent, on en est leur serviteur. Et je crois que cette exposition, c'est exactement ça. Garder le silence, c'est aussi s'accorder la possibilité d'en parler, mais avec une certaine réserve. Et je trouve que cette exposition, c'est une manière d'être traversée pas par de l'histoire, mais par un peuple qui manque. Par un peuple qui n'est plus là. Et ce peuple qui manque, c'est le titre de l'exposition. Étranger résident. Étranger résident.
Et Florian Guettet, avant de revenir à vous, peut-être, Corinne. Florian.
Oui, moi c'est une exposition que j'ai trouvée évidemment très belle, très riche, mais qui m'a beaucoup émue au point que j'ai trouvé ça difficilement supportable sur certains moments. Quand je suis arrivée au bout, notamment de ce couloir avec les cellules, qu'on arrive sur la toute dernière salle, qu'on a d'un côté les survivants ou en tout cas les familles des potentiels survivants d'un naufrage de paquebot qui attendent, à côté Eliane et Hélène qui est en train de pleurer, et puis enfin à côté la revanche d'une sœur qui a visiblement jeté son petit frère à terre. Ça a été une exposition, c'est une exposition de Toussaint, hein, je crois que c'est assez de circonstances. Effectivement, je suis assez d'accord avec Corinne Rondeau quand elle dit que on a des visages d'hommes invisibles en fait, ou de parce que il y a quand même un motif récurrent qui moi m'a beaucoup frappé, qui au point que je vois pas, c'est effectivement le visage qui se prend dans les mains, qu'on retrouve vraiment donc chez Lewis Sine, chez Eugene Smith, chez Dave Hiss, chez Sol Hater, qu'on retrouve donc vraiment tout au long de l'exposition.
Prend la tête dans les mains.
Ouais, et on ne sait pas si c'est un défaut d'identité, si c'est un découragement, si c'est un aveuglement. Tout ça interroge en fait à ce niveau-là. Et puis, effectivement, c'est figé dans une certaine époque qui n'a pas d'histoire ou qui n'est pas inscrite dans une histoire. C'est-à-dire que je ne sais pas si on m'a... Effectivement, j'ai pas l'impression d'avoir pris une leçon d'histoire. Le fait que tout soit en noir et blanc, parfois de manière assez indistincte, on passe comme ça des années 20 aux années 70 et on se dit qu'effectivement, il y a une histoire là qui traîne, qui est sous-jacente et qui n'arrive pas à avancer. Moi, j'ai vu beaucoup la problématique personnelle de Karmitz avec cette forme de d'indécidabilité de sa position, de son histoire, de comment lui-même se donne comme un homme invisible. Et d'ailleurs, si on remarque bien les images des émigrés qui sont vraiment très très présentes, alors certes l'exposition commence avec les États-Unis, mais il y a très peu de photographes américains. Mmh. On va très très vite sur l'Europe de l'Est. En fait, on a beaucoup de migrants isolés, esselés, et les seuls moments où on les voit vraiment en communauté, alors il y a quelques petites communautés ou de couples, mais les seuls moments où on les voit vraiment en communauté, c'est quand ils travaillent, c'est quand ils reconstruisent, quand ils sont dans ce labeur-là. Donc là aussi, par exemple, je pense aux photos de kibbutz de Moïver, etc. Et il me semble qu'il y a une sorte de démarche un peu figée dans cette non-histoire-là, où Karmitz n'arrive pas à faire œuvre de résilience. Je crois qu'il n'en a pas besoin, je crois pas qu'elle soit vraiment utile. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant, parce que finalement, je trouvais que dans le contemporain, vraiment le contemporain, moi j'ai moins accroché sur les pièces, hein, Boltanski, Messager, Martial Reiss. Ça m'a vraiment moins intéressé, comme si finalement, dès qu'on arrivait au présent, il y avait quelque chose qui ne se passait plus. Avec une fin d'exposition que je trouve assez qui moi m'a laissé un peu sur ma faim, ou qui m'a laissé vraiment circonspect. Mais les seuls parmi les contemporains que j'ai peut-être aimé, c'est notamment Géraldine Cario, et c'est très étonnant ce qu'elle fait en ce moment, une exposition qui s'appelle Réparation, qu'on voit à la galerie Leroy Net, et précisément là il n'y a pas œuvre de réparation.
Je reviens vers vous, Stéphane Coréard, quelques mots encore.
Alors dans les visages, effectivement, il y a ces visages qui se prennent dans les mains, qui sont saisissants. Moi, il y a une photo que j'ai trouvée absolument sublime de Witkiewicz, qui est un artiste très rare, des photos des années 10. On avait découvert ça au studio de la Galerie de France il y a quelques années. Et là, il y a un autoportrait pris à Zakopane en 1912, où il est dans du verre brisé. Et finalement, c'est ce verre brisé qui le révèle, en fait, qui permet de le rendre visible. Je crois que la photo en noir et blanc est aussi un monde qui disparaît. Ce que dit Marine Karmitz lui-même, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de papier, il n'y a plus de tireurs, les photographes ne tirent plus leurs photos, on est dans la photographie numérique, couleur, qui domine tout, donc je crois que cette forme de la photo noir et blanc l'intéresse aussi par rapport à ça, ça rejoue un peu l'idée de ce monde qui disparaît. On parle beaucoup de photos, j'aurais quand même parlé de quelques tableaux qui sont absolument splendides dans l'exposition, il y en a très peu, il y en a très peu, et la plupart sont très très beaux. Il y a notamment donc les cellules de San Marco, du San Marco de la Maison Rouge, qui sont pris dans une tension entre deux peintures qui sont toutes les deux sublimes. C'est le Giacometti, qui est un tableau saisissant, parce que c'est un portrait d'homme, et il y a une sorte de repentir qui fait qu'à la place du visage surgit un nu féminin. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un tableau étonnant, sublime, de Giacometti. Et à l'autre bout du couloir, un tableau d'Amersheuil, un des derniers tableaux d'Amersheuil, qui représente sa femme, ce qui est très rare, de dos, dans sa cuisine, quasiment de dos, enfin de un quart, on va dire. Trois quarts d'eau, enfin voilà. Et ça, je trouve le tableau aussi absolument sublime. Et puis un autre très très beau moment, c'est avant de rentrer dans l'installation d'Annette Messager, avec ses pantins découpés noirs, etc. Il y a la mante de Germaine Richier et un tableau au doigt de Louis Souter, ce qui fait un ensemble, je trouve, saisissant.
Bon, dernier mot, Corinne Rondeau.
Non, j'écrirai un truc.
Ouais,
écrivez. Parce que là, si vous voulez, quoi, bon, voilà.
Ouais, et ben c'est très bien que des expos nous fassent des effets pareils, parce que je souscris à peu près à tout ce qui a été dit. Je ne prendrai pas le temps d'en dire plus. Étranger résident, Roman Vichniac, quand même, on n'a pas cité son nom, donc je le dis, parce que c'est quand même parmi les photographies qui m'ont le plus saisi. C'est la collection Marine Karmitz, donc une partie en tout cas, jusqu'au 21 janvier à la Maison Rouge, et un catalogue qui a été édité pour l'occasion par la Maison Rouge et Phage Édition.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute consacrée le mercredi soir aux arts plastiques avec l'exposition que le Grand Palais consacre au photographe américain Irving Penn, dont on célèbre cette année le centenaire. Il est mort en 2009 à 92 ans. Il a débuté en 1938 à New York. Il a donc exercé son art près de 70 ans, et pourtant, et c'est un des grands points positifs pour moi de cette rétrospective, il n'y a pas trop de photos au Grand Palais, mais il y en a bien assez pour montrer la place immense d'Irving Penn en 253 images tirées par le photographe lui-même. Après avoir été présenté au MoMA de New York l'été dernier, l'exposition est visible à Paris jusqu'au 29 janvier. Les commissaires en sont Maria Morris Angborg, Jeff Rosenheim et Jérôme Neutre. Alors Corinne Rondeau, vous souhaitez qu'on interrompe la musique d'Igor Stravinsky pour consacrer plus de temps, bien sûr, à cette exposition qui était montrée au Metropolitan Museum de New York. J'ai déjà dit une bêtise à 19h06, c'est bien noté, et non pas au MoMA. Elisabeth Franck Dumas,
oui.
Pour la peine.
Oui, pour la peine, c'est-à-dire.
Pour Irving.
pardon, je suis un peu lente ce soir, ça n'augure rien.
Moi, c'est venu comme ça.
Je vais dire, ça vaut la peine alors.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Écoutez, oui, c'est une très belle expo, élégante, sobre, qui ressemble au photographe et à son travail. Une expo faite avec beaucoup de moyens. Enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'elle donne en partenariat avec donc le Metropolitan. Voilà, tout est fait pour le mettre en majesté, cet accrochage linéaire et sobre, ces tons gris, ce qui se marie très bien avec cette sorte de perfection formelle à laquelle il aspirait dans ses photos, lui qui s'inspirait ouvertement, enfin il le revendiquait, des grands maîtres de la peinture ancienne, prise quasi intégralement en studio, c'est-à-dire quand même un petit peu coupé du monde. Il y a beaucoup de choses qu'on connaît, ou en tout cas, si on ne connaît pas toutes les photos, on reconnaît sa patte pour les photos de mode, pour les natures mortes. Bon, moi, j'ai un regret, contrairement à vous. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de photos, mais je regrette qu'il n'y ait pas eu plus de natures mortes culinaires, qui est un travail que je connaissais bien, que j'aime beaucoup et que je trouvais plein d'humour, parce que sinon... On rigole pas toujours, mais voilà. J'ai regretté que ça soit pas là. En revanche, beaucoup de découvertes, ça c'est formidable, notamment des photos prises lorsqu'il a été envoyé en reportage à Cusco, une série sur les mégots aussi que je ne connaissais pas.
C'est celle que j'ai préférée.
Voilà, qui est formidable.
Les mégots de cigarettes.
Mégots de cigarettes ramassés dans les rues de New York, en gros plan, crade et beau. Alors qu'est-ce qu'on voit sur toutes ces photos? On le reconnaît évidemment, mais qu'est-ce qu'on apprend sur Irving Penn? Alors, je trouve qu'il y a des portraits formidables. Il y en a qui sont déjà très connus, qui ont été réutilisés. Saint-Laurent, Balthus, Picasso. Il réussit à capter quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. Par exemple, Balthus, un petit côté un petit peu voyou et mauvais garçon, comme ça, de Balthus jeune. Mais généralement, ce que je trouve frappant, c'est déjà qu'il s'intéresse finalement moins au visage, même s'ils sont très réussis dans les portraits qui sont là, qu'au corps, qui façonnent comme des silhouettes. On a l'impression, surtout dans les photos de mode, qu'il faut faire ressembler toutes ces femmes ou toutes ces robes à des fleurs, à des iris, à des orchidées. Enfin, ce qui l'intéresse, c'est le plissé, le tomber d'un vêtement sur une épaule. Même lorsqu'il va à Cusco, on voit qu'en fait, finalement, ce sont les robes qui l'intéressent beaucoup plus. Donc ça, je trouve ça très amusant. Évidemment, presque toutes ces photos ont été faites pour Vogue, c'est-à-dire que ce sont quand même des photos qui sont là pour nous vendre quelque chose, ou qui ont été conçues pour vendre quelque chose, qui ont été conçues pour vendre de la mode, quelque chose d'un petit peu aujourd'hui, on dirait, aspirationnel, qui ont été conçues pour nous vendre des personnalités aussi, c'est-à-dire que c'est vrai que dans ces portraits, par exemple le portrait de Colette ou d'Anaïs Nin, très ridé, très proche comme ça, alors on n'est plus dans cette sorte de perfection, mais c'est normal parce qu'on nous vend un écrivain. Ou alors, même les métiers, je trouve, évidemment... je trouve que le travail de Penn est très impressionnant, mais on ne peut pas se dégager de cette impression-là. Ça évoque quand même aussi ces années 50, la puissance des États-Unis qui se manifestait dans la politique éditoriale de magazines qui l'embauchaient. Et je trouve ça très intéressant aussi de voir comment son travail a pu aider à vendre une vision du monde qui était la vision du monde d'un magazine comme le Vogue américain.
Voilà, après cette introduction, signée Elisabeth Franck Dumas. Yasmine Youssi.
Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas vu la même exposition.
Très bien. Alors, vous étiez bien au Grand Palais, Yasmine.
Ah ben, Corinne peut en témoigner.
Très bien. Bon. Vous en témoignez, Corinne ?
Je témoigne.
Bon, Corinne Rando confirme. Alors, qu'est-ce que vous avez vu ?
Mais écoutez, j'ai pas vu ça du tout. Pour moi, d'abord, j'ai trouvé que c'était une exposition exceptionnelle parce qu'elle permettait d'approcher au plus près et l'homme et son travail à travers ces murs gris, comme vous disiez, cet accrochage, c'est très racé, très élégant, c'est ce qu'il faisait. J'ai trouvé extrêmement intelligent parce que Irving Penn, ces derniers temps, la mode depuis quelques années pour vraiment prouver que c'est un grand art annexe absolument tous les photographes pour en faire de grands photographes de mode. Et Irving Penn, c'est d'abord un grand photographe avant d'être un photographe de mode. La mode, pour lui, le fait vivre et lui permet de mener de faire son travail en parallèle. Mais c'est absolument pas ce qui l'intéresse le plus. Et ça, on le voit très bien. D'ailleurs, la mode, là, est évacuée en une salle. En fait,
dans les salles thématiques,
parce que la plupart, c'est des salles chronothématiques, elle est évacuée en une salle. Et dans cette salle-là, on vous montre surtout à travers les photos de mode, son goût pour le tirage et comment il va transformer une seule et même photo en 5 images différentes. Mmh. Enfin, un seul négatif en 5 tirages différents et le velouté qu'il va donner.
C'est très, très beau,
c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. En fait. Mais en fait, lui, il a commencé effectivement chez Vogue par faire ces natures mortes culinaires, comme dit Elisabeth, qui sont très drôles, parce qu'elles suivent un sens. Chaque élément se touche, il compose vraiment la vinaigrette, vous verrez, c'est vraiment, il suffit de suivre l'ordre pour réussir sa vinaigrette. Donc il fait ça et puis Alexandre Liberman qui est quand même l'un des plus grands directeurs artistiques du XXe siècle qui vient de Berlin, ayant été vraiment un foyer pour la presse et pour les explorations graphiques dans les magazines. Alexandre Liberman se dit mais mon Dieu c'est un génie qu'on a donc on va essayer de lui faire faire de la mode et c'est comme ça qu'il se met à faire de la photo de mode. Alors, effectivement, il vend un vêtement, la photo de mode c'est fait pour ça, hein. C'est pour mettre en valeur un vêtement même si aujourd'hui on s'en rend plus vraiment compte, mais là, il remplit son rôle. Et à chaque fois, alors, il le met là-dessus, puis il le met, par exemple, il l'envoie à Cusco pour faire une série de modes. Il va pas à Cusco pour aller faire des portraits d'Indiens, il va à Cusco pour faire une série de modes, et on voit la photo de mode qu'il réalise à Cusco. Et là, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ben, il fait ce qu'il va faire à chaque fois, et avec l'assentiment de Liberman, qui se dit, ce qui est bon pour Penn, c'est aussi bon pour moi. Je vais le laisser faire son travail en parallèle, et je le récupérerai, je le passerai aussi dans Vogue. À l'époque, Vogue était un immense magazine avec des reportages photographiques absolument exceptionnels. Donc là, c'est comme ça qu'il travaille à chaque fois. Il va à Cusco, il loue cet atelier, il découvre ce que c'est que la lumière latérale, la lumière du Nord, qui va après chercher tout le temps. Vogue publiera d'ailleurs les photos qu'il fera des Indiens qui viennent se faire tirer le portrait pour Noël. Et qui se retrouve finalement à partir avec de l'argent parce que Penn leur dit non, venez poser pour moi, je vais vous donner de l'argent. Donc il crée quelque chose là. Pareil à Paris. Il vient à Paris pour faire de la photo de mode. C'est Edmond Charleroux qui s'occupe de lui. Et il lui dit, mais je veux faire aussi des portraits. Il a l'idée de faire les portraits de petits métiers, l'idée qu'il ramène de Cusco. Et en parallèle des photos de mode, il va faire toute cette série sur les petits métiers qui déclinera ensuite à Londres, qui déclinera ensuite à New York.
Faisant à chaque fois venir voilà, les gens dans son studio.
Et vous savez qui, qui était le rabatteur, c'était Robert Doisneau. Et par rapport, alors ce que vous dites, moi, Elisabeth, par rapport au portrait, je reconnais absolument pas ce que j'ai vu dans ce que vous dites, parce que ce qui l'intéresse, ce n'est absolument pas de psychologiser un portrait. C'est pas la psychologie qui l'intéresse, c'est la forme. Ça reste un peintre frustré jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est vraiment un travail sur la silhouette, sur le corps dans l'espace. C'est un travail sur tout ça. Il cherche pas à dire quoi que ce soit sur les gens, regardez les
photos. C'est pas exactement ce que vous avez dit, ça, Elisabeth Franck-Dumas ?
Non.
La forme, le corps qui passe avant
si,
tout, quand même.
Si, mais vous disiez qu'il cherchait à vendre un pays. Je vous reconnais pas là. À vendre la grandeur des États-Unis.
Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est c'est pas seulement ce que cette expo raconte du travail de Penn. Elle dit beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. C'est ce qu'elle dit aussi d'une certaine politique éditoriale, d'un magazine, comme vous venez de le dire, qui était un immense magazine extrêmement puissant. Qu'est-ce qu'on voulait faire découvrir à ses lecteurs, qu'est-ce que toute cette bande de directeurs artistiques, parce qu'il y avait Liberman, il y avait Brodovitch à Harper's Bazaar, qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire découvrir à leurs lecteurs, comment ils avaient envie de les éduquer, parce qu'il y avait cette mission-là aussi, et qu'est-ce qu'on allait leur vendre, et avec quoi est-ce qu'on allait les appâter, et comment est-ce qu'on allait leur expliquer que tel écrivain était intéressant, que tel... Et moi, cette démarche-là m'intéresse. Je trouve que c'est quand même dans ce cadre-là, c'est pas des portraits qu'il a fait pour lui, ou c'est pas des portraits qu'il a fait, j'irai, en travail personnel. C'est quand même dans un cadre éditorial très circonscrit et où il s'agissait de vendre tous ces sujets qui, a priori, intéressaient peut-être pas l'Amérique moyenne dans les années 50. Toutes ces personnes, on parle de New York, mais c'était un magazine qui était vendu dans tout le pays. Et je trouve que la rencontre entre ce talent-là et cette volonté-là dit quelque chose de l'époque que je trouve intéressant.
C'est une vieille tradition hein, chez Vogue de parler de la vie culturelle, alors beaucoup plus à l'époque qu'il ne le faisait aujourd'hui, et avec des intellectuels beaucoup plus puissants que ceux dont on parle aujourd'hui.
C'est les États-Unis d'après-guerre.
Ouais, même d'avant-guerre. Ouais. Hein, c'était vraiment, alors pour le coup, avant-guerre, voilà. Avec Lee Miller, avec tout ça, c'était dès les années 20, c'était ce type de photos qu'il faisait. Mais lui, je trouve que vraiment, c'est un travail sur la forme avant tout.
Corinne Rondeau, qu'on a vue dans l'exposition du Grand Palais.
Je ne partage pas,
une autre voix.
Je trouve que c'est la grande classe intégrale. Et je trouve que les Américains n'ont pas beaucoup d'imagination sur les scénographies. Et là, c'est parfait pour Penn, parce qu'il ne faut pas en rajouter. Voilà. Je veux dire, il est là. Il est là, et je trouve qu'effectivement, il y a une belle intro qui est... En première salle, on ne l'attend pas. Les recettes de cuisine, des premières photographies noires et blanc avec sa propre ombre. La première photo, c'est sa propre ombre qui est projetée sur des signes, des ombres de signes de devanture de boutique. Et donc, il va photographier des mots, par exemple, vacancy, et donc, avec une petite icône à côté. Et donc, il a le sens du raccourci, il a le sens de... Il voit les choses à la fois dans la rue. Il est déjà dans la rue avant qu'on le découvre avec ses mégots plus haut à l'étage. Et ça, c'est très bien, parce qu'en même temps, avec ses natures mortes et ses recettes, on est déjà dans la publicité sans vouloir nous faire le coup de « on va vous montrer Le Pen publicitaire ». Parce que je pense qu'il y a une certaine classe de la part notamment du commissaire du Met, qui est une manière de dire, à l'époque, on avait quand même d'un côté Alexei Brodovitch, qui était Harper's Bazaar, donc le mec était non pas seulement un hussard du tsar, mais il a été quand même le plus grand prof de design graphique. C'est quand même le type qui a inventé les plages de pages blanches. Vous regardez sur internet, vous pouvez avoir accès à des pages de Harper's Bazaar et vous voyez des lignes qui reprennent la ligne de la photo à côté. Donc on trouve ça peut-être ringard aujourd'hui, je trouve ça d'une très grande efficacité encore aujourd'hui. Et quand on voit les typographies aujourd'hui, il y en a partout, on ne sait plus où est-ce qu'il faut lire, on se dit voilà, c'est la classe intégrale, on tourne, on comprend, et il y a un rapport, une articulation simple et efficace du regard, de la lecture. Et ça, c'est très très bien. Donc je pense que évidemment, quand il passe chez Lieberman à Vogue, je veux dire, là, il est déjà formé par le plus grand, qui est aussi un Russe. Donc on a les avant-gardes avec eux qui sont déjà aux États-Unis. Et donc il a formé son œil sur l'idée du graphisme et du design. Donc quand effectivement, la deuxième salle, on voit des robes, vous parliez de plis tout à l'heure, effectivement, il y a des robes Balenciaga avec sa femme qui pose. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette photo? C'est plus une robe, c'est plus une femme, c'est une robe et une photo, c'est une photo avec une femme, enfin vous ne savez plus. Ouais. Et donc vous en prenez plein les mirettes, parce que même si on connaît Penn, c'est quand même un morceau, c'est un peu comme du Picasso, il y a encore mince. Et là vous dites waouh, mais ça cogne encore. Et alors voilà des qualités du détail dont le détail devient la substance de la photo, et toute la photo vous tombe à l'œil, quoi. C'est formidable. Et à côté de ça, on a les portraits, effectivement, où il y a une photo de Cocteau. Il n'y a pas que Cocteau, parce qu'on va voir toute une série où avant de partir à Cusco, au Pérou, où effectivement il va se casser à 3500 mètres d'altitude, il faut le faire, il est à New York, il fait les photos avec les stars et machin, il va se retrouver avec des Péruviens tradition, pieds nus, les godasses à moitié arrachées, bon voilà, et en fait il sculpte, sa photo c'est de la sculpture, et quand vous voyez en fait les personnages, il n'y a pas de personnalité, mais il y a du style. Chaque fois qu'il fait une photo de quelqu'un, que ce soit Stravinsky, Cocteau,
Dorabar,
ce que vous voulez, ils ont leur style. Painter Stressy, parce qu'il a une manière de photographier. Au départ, il a un fond gris. Enfin, il a un fond gris qui triture comme ça. Il va le récupérer. Il va avoir ce fond gris pendant 50 ans qu'il aura récupéré à Paris. Hein. Mais avant, il est déjà sur des fonds gris un peu marbrés. Et il va avoir des coins, c'est-à-dire deux angles et puis un fond plat. Mais on va voir légèrement. Et puis après, il va avoir le recoin. C'est-à-dire un triangle. Il va caler carrément ses personnages. Alors, c'est formidable parce qu'en fait, il pense à la page. Voilà. Pour faire un portrait, il les met dans la verticalité de la page. Et d'un coup, cet angle qu'il y a derrière le personnage, vous dites, mais c'est complètement claustro. Et pas du tout. Il arrive à saisir, dans le moindre espace, le style de la personne. Et quand, effectivement, là-dessus, après, bon, Cocteau n'est pas dans un angle. Là, il y a Duchamp, par exemple. Ouais. Duchamp qui est dans un coin, genre, je me fous de l'angle et je m'y colle. Moi, j'ai trouvé ça génial. Il est impeccable. Stravinsky qui tend l'oreille, comme ça. Genre, bon, ce type-là, je le connais pas, mais... enfin, on peut se dire qu'il est musicien sans savoir qui est Stravinsky, vous voyez. Il y a déjà la personne à qui il s'adresse, comment il va être, et la photo est la personne dans son style elle-même. Donc il n'y a pas de psychologie, il n'y a pas de sociologie, et en même temps, il ne le fait qu'avec du style qui est le sien, c'est-à-dire une géométrisation, une épure, une élégance, mais qui va jusqu'au paysan du péruvien, enfin, qui est absolument admirable, parce que même quand on parle de portrait ethnographique, moi j'en ai marre, parce que ça me saoule en fait de dire portrait ethnographique. Moi, ce que je trouve génial, c'est que le type est toujours à droite et à gauche, il est en continu, comme vous l'avez dit, Elisabeth, dans son studio, il va dérouler ce fond gris, et sur ce fond gris, il va faire à peine bouger la lumière, à peine, et chaque fois il fait une autre photo qui est jamais la même. Et il dit à un moment donné, la séance de photographie, c'est comme un diamant sur un terrain de baseball. Alors c'est génial parce que ça veut dire qu'en fait, il y a celui qui lance la balle, il y a celui qui l'attrape. L'attrape, c'est le photographe, et celui qui lance, c'est le modèle. Et alors c'est un peu bizarre ce diamant sur un terrain de baseball. Moi, j'ai pas très bien compris ce qu'elle voulait dire, mais je me suis fait une interprétation. Mais je sens qu'Elisabeth va me le dire.
C'est le dessin du terrain de baseball qui s'appelle un diamant.
Ah voilà.
Parce qu'il est en forme de diamant.
Ah,
voilà.
Ok.
Alors, c'était quoi votre interprétation, Corinne Rondeau, pour finir là-dessus?
À cause de l'idée que, comme il travaille beaucoup la lumière sur ses modèles, il y avait peut-être aussi quelque chose. Le diamant est aussi une manière de faire bouger la lumière sur une forme, quoi. Voilà. Donc j'ai pensé à la lumière sur l'objet. Et je trouvais ça bien parce qu'il y a le mouvement de la batte de baseball. D'ailleurs, il y a une photo de Irving Penn. On dirait un joueur de tennis. Et je me suis dit, mais ce mec, en fait, est un aristo comme Björk, c'est-à-dire l'aristocrate qui va vers le peuple, comme disait Deleuze à propos du lift et du coup de Björn Borg. Et en fait, Irving Penn, c'est l'aristo qui est allé vers le peuple, parce que la question de travailler toute sa vie vers la publicité, c'est peut-être pas élégant, mais quand on voit la vulgarité de la publicité aujourd'hui, ce qu'elle est, on a envie de dire, ben, j'aimerais bien qu'il y ait un photographe comme Irving Penn qui vienne saigner à blanc le travail de certains publicitaires pour nous dire l'élégance. On en a encore un petit peu.
Existe dans encore.
Et dans les magazines, bien sûr.
Et les photos de mode aussi. La vulgarité aussi des photos de mode aussi.
Oui, bah, en parlant de peine, alors, plutôt. Oui, oui. Pour rester dans
l'élégance. Non, mais écoutez, vous parliez des portraits. Moi, il y en a un qui m'a fasciné. C'est le portrait de Peter Ustinov. Parce qu'il place son corps. On ne sait même pas
Ça a pas l'air d'être possible physiologiquement.
On dirait qu'il a fasciné la matière comme ça. Et alors,
qu'il a retourné la tête pour qu'elle soit face à l'objectif.
Comme Marilyn Dietrich.
Oui. Absolument. Et vous parliez à l'instant, Corinne, de sculpture. Regardez tous les nus qu'il fait. Moi, je les connaissais pas très bien, les nus. Que ça soit aussi bien des corps très maigres que des corps voluptueux. On a l'impression que c'est un hommage à Mayol. On a l'impression que c'est un hommage à Henry Moore. Enfin, il y a vraiment, là, on voit la sculpture. Et les cigarettes elles-mêmes, les mégots de cigarettes, ressemblent à des sculptures aussi.
Ou à des membres.
Ce qui tombe bien, c'est que c'est jusqu'au 29 janvier, cette exposition Irving Penn, dont on n'a pas épuisé, évidemment. Évidemment, toutes les beautés, c'est au Grand Palais, très beau catalogue. Effectivement, qualité d'impression, c'est mieux pour Irving Penn, qui tenait tant. C'est publié donc par la RMN.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Troisième sujet de cette dispute art plastique avec l'exposition que la Fondation Cartier pour l'art contemporain consacre à Malik Sidi Bé sous le titre « Mali Twist ». Un an après la disparition de l'artiste, cette exposition retrace en 250 images le parcours du photographe malien André Magnin et le commissaire de cette exposition assisté par Brigitte Ollier. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. C'est en 1995, dans cette même fondation Cartier pour l'art contemporain, qu'avait été présentée la première exposition monographique du photographe malien Malik Sidi Bé, hors du continent africain. 22 ans plus tard, donc un an après la mort de Sidi Bé, la fondation nous offre une nouvelle plongée dans l'œuvre du photographe. De quelle façon, avec quelles œuvres, avec quel déroulé, on va le savoir grâce à vous. Yasmine Youssi, vous avez vos fiches en ordre?
Oui.
Mais il y en a quatre?
Il y en a quatre.
Mais qu'est-ce que comment ça se fait? Ça me ramasse cinq.
Bah non, mais on fait trois sujets cette année.
Ah, du coup, il y a moins de fiches.
Ben voilà.
D'accord. Non, mais j'étais tout d'un coup extrêmement perturbée. Vous avez toujours l'introduction, première fiche ou pas?
Toujours.
Alors allez-y. C'est le moment.
Mais écoutez, pour moi, il y a quelque chose d'euphorique à aller voir cette exposition. On sort de là. J'avais l'impression d'être galvanisée. D'abord parce que raconte l'exposition elle-même, c'est-à-dire cette Afrique au lendemain des indépendances. De par sa scénographie, qui est remarquable et qui nous plonge dans ce parcours, de par la scénographie, c'est aussi la bande originale. Là, vous avez passé ce morceau. Et il y en a plein comme ça. Ça va des Dalton, de Joe Dassin, à... Les Beatles, vraiment toute la BO de l'époque. Et puis, de parce qu'elle offre aussi de découvertes, cette exposition. Il y a une multitude de photos que moi, je ne connaissais pas de Malik Sidi Bé.
Il y en a qu'on connaissait, que personne ne connaissait.
Il y en avait que personne ne connaissait,
hein, absolument. C'est quand même assez étonnant,
absolument.
D'ailleurs.
Mais vraiment, enfin, il y a il y a plusieurs petits métiers, vous savez, comme Douaneau en faisait, comme Auguste Sander en avait fait, mais à
comme
sa
Irving
manière
Penn,
à lui, comme Irving Penn,
en ce
bien
moment,
évidemment.
Au Grand Palais.
À sa manière à lui, très drôle, parce que je trouve aussi que c'est ça. Moi, j'avais eu la chance de rencontrer Malik Sidi Bé à plusieurs reprises en France et au Mali. Et vraiment, ce qu'il caractérisait, c'était son humour. Et là, par exemple, dans les photos de métier, il y a une photo d'un horloger. Et si vous regardez, elle est magnifique, un visage magnifique. L'horloger est assis à sa table avec toutes les horloges devant et tous les réveils. Il n'y en a pas un qui indique la même heure. Voilà, c'était ça, Malik Sidi Bé. C'est une exposition qui raconte l'Afrique, les indépendances, et qui est cette indépendance et l'euphorie de l'indépendance, l'effervescence de l'indépendance, qui est vraiment symbolisée par cette jeunesse qui croque la vie à plein de dents, qui prend son destin en main, qui fait la fête, et qui permet pour la première fois, grâce à la musique, il l'explique très bien, il le montre très bien aussi, les garçons peuvent se rapprocher des filles et établir un contact que les musiques traditionnelles ne permettaient pas. Et de 1960 à 1968, Malik Sidi Bé va couvrir tout ça. Et il n'est pas seulement portraitiste, Malik Sidi Bé, on le voit bien dans cette exposition, contrairement à Seydou Keïta qui était essentiellement, ses aînés qui étaient essentiellement en studio, lui il court les fêtes, il répond aux prières, comme il dit, les prieries, c'est je vous prie d'assister à la fête qui sera donnée. Voilà. Et puis, ce que moi, je n'avais pas saisi, en fait, et que j'ai beaucoup mieux compris là, c'est qu'à partir de 68, le premier président, c'est Modibo Keïta, et après 68, il y a un coup d'État militaire, et là, on revient à un État qui réclame une africanité. Les jeunes sont arrêtés s'ils sont habillés trop à la mode occidentale. Parfois, certains ont la tête rasée. Et effectivement, on se rend compte qu'à partir de 68, tout se passe en studio. Et c'est aussi une forme de résistance de la part de ces jeunes qui viennent habillés avec leurs pattes d'éléphant, avec leurs chemises à fleurs, et lui qui les magnifie comme ça. Et là, effectivement, on voit aussi revenir en studio des vêtements qu'on voyait beaucoup plus, des boubous, des vêtements, comme on dit, ethniques, qu'on voyait dans les photos de Seydou Keïta, qu'on ne voyait plus au début. Et ça, on le voit bien. Moi, je m'en étais pas aperçue avant.
Il y a aussi l'histoire politique, bien sûr, du pays qui est dans l'exposition. Sandra Adancourale, je reviendrai vers vous. Yasmine, je crois que vous êtes à la fin de la fiche 2, là, si j'ai bien suivi vos yeux sur vos fiches.
Vous avez des yeux perçants.
Sandra Adancourale.
C'est vrai qu'après l'effervescence de la FIAC, aller visiter cette exposition, c'était vraiment un moment de paix.
De soulagement,
je suis d'accord.
Il y a sous-texte là, bon, on y reviendra peut-être.
En fait, il y a de la joie, de l'espoir dans les photos de Malik Sidi Bé, et ça fait du bien. Donc Malik Sidi Bé qui effectivement photographie cette jeunesse juste après l'indépendance, cette jeunesse en fait qui au travers ses vêtements Et dans cette quête d'une identité, après, juste après l'indépendance, la libération se fait, on l'a dit, par la musique, qui permet effectivement de faire se rapprocher les corps. Ils empruntaient leur nom de club à leurs idoles. Alors il y a les Chats Sauvages, les Chaussettes Noires, les Beatles. Voilà, toute l'exposition est parcourue de propos de Malik Sidibé lui-même, qui vient ponctuer comme cela les différentes séries accrochées. Et il n'y a pas de thème de salles en fait qui sont affichées ou écrites dans l'exposition. Le regroupement des photographies suffit et cette écriture de Sidibé suffit et c'est assez agréable. Et justement sur cette jeunesse, Malik Sidibé dit « Pour moi la photographie c'est la jeunesse, c'est pas un enfant qui pleure au coin d'une rue, la pauvreté on la connaît ici en Afrique, la photographie c'est la joie ». Et voilà, c'est ça l'œuvre inédite de Sidibé et elle est inédite aussi, pardon, parce que c'est une des premières à participer d'une photographie africaine pour les Africains. C'est-à-dire, avec bien sûr aussi Seydou Keita, qui avait déjà commencé, donc autre grand photographe de Bamako, qui avait déjà commencé à photographier la jeunesse d'avant l'indépendance. Voilà, ça ne répond pas ici à une commande occidentale. C'est vraiment une photo africaine pour les Africains. Ça, je trouve que c'est vraiment important de le souligner. Et c'est assez frappant dans une série que j'ai trouvée incroyable, qui est cette série qu'on voit donc dans la deuxième partie de l'exposition qui est dédiée au rocher aux aigrettes, donc ce lieu où les jeunes après les surprises parties justement vont se rafraîchir, donc ce lieu au bord du fleuve Niger. Ce sont des images d'un instant très simple, plein de vérité et surtout d'une grande complicité. C'est ça que je trouve dans la photographie de Malik Sidibé et qui ressort vraiment ici, dans cette exposition, avec une grande simplicité. Alors bien sûr, il y a dans cette série la célèbre photo du combat des amis avec la pierre, qui est une des photographies composées par Malik Sidibé. Mais il y a aussi cette autre photo que j'ai trouvée magnifique, d'un jeune homme sur un rocher, pris en contre-plongée. Le blond du ciel sur lequel se détache la silhouette de l'homme est assez vertigineux. Et il y a une sorte de détermination dans la pose qui transforme ce jeune homme finalement peut-être en emblème de cette jeunesse comme ça, de cette nouvelle génération qui arrive après l'indépendance.
Non, Florian Guettet, même enthousiasme pour l'exposition Malik Sidibé à la Fondation Cartier pour l'art contemporain. J'ai mis en entier, hein, c'est mieux.
Eh bien, une fois n'est pas coutume, je me range à la vie générale. Effectivement, je trouvais ça particulièrement euphorique, pas encore, mais il reste deux expositions. Effectivement, je m'attendais presque à une exposition hommage, parce qu'effectivement, il a disparu il y a un an, et donc ça aurait pu être quelque chose d'assez sinistre, ou en tout cas porté vers la mort. Et au contraire, c'est une exposition qui transpire la vie de cette jeunesse, effectivement, l'immédiate indépendance.
Ça aurait
été
un drôle d'hommage si ça ne célébrait pas la vie. Parce que franchement, ça aurait été vraiment rater le sujet.
Oui, bon, enfin bon, on a parlé encore il y a peu de peintres, par exemple, qui célébraient plutôt la couleur et qui avaient une ambiance plutôt mortifère.
C'est vrai.
Donc ça aurait pu être le cas, ça ne l'est pas. Donc effectivement, quand on se plonge dans cette exposition, on est plutôt galvanisé, pour reprendre le mot de Yasmine. Effectivement, donc il y a cette insouciance des années 60, et puis il y a quand même une deuxième partie de son œuvre qui est dans les années 60, au milieu des années 70, à partir du moment où le régime se fait effectivement plus autoritaire, où il y a une forme de repli dans le studio. Et les premières photos en fait, qui se passent voilà, dans l'effervescence des surprises parties laissent place cette fois à une sorte de petit asile qui est son studio, qui est recomposé par Constance Guisset, si je me souviens bien, dans la première salle d'exposition, où donc, voilà, on est invité en tant que public à venir s'emparer des accessoires et composer soi-même sa photographie. Et dans ce moment voilà un peu théâtral ou dramaturgique de son œuvre, eh bien chacun vient se mettre en scène. Alors à la différence de Seydou Keita, c'est plutôt la classe moyenne qui vient ici, alors qu'on a plutôt voilà une sorte de bourgeoisie, on va dire, chez Seydou Keita. Et cette jeunesse moyenne, pas forcément jeunesse, enfin, la classe moyenne vient se mettre dans des positions. Alors ils viennent parfois déguisés, ils viennent parfois avec leur marque de richesse, on va dire, la moto, la déesse, avec cette petite fille que j'ai beaucoup aimée, la déesse sur déesse, avec un jeu de mots, puisque ça c'est aussi la malice de Sidibé que de vouloir jouer avec les titres pour forcer, enfin voilà, pour faire ressortir ressortir les situations humoristiques et casser un peu la gravité des choses. Ou alors avec la moto, le chapeau de cow-boy aussi, qui revient souvent, hein, qui est une sorte de façon de redoubler la boxe, qui est très importante évidemment dans la culture africaine à ce moment-là, qu'on retrouve ensuite en Afrique du Sud, par exemple, beaucoup aussi. Moi, ce qui m'a intéressé avec Sidi B, c'est de me dire finalement comment on devient soucieux de l'insouciance. C'est-à-dire comment on peut traiter la joie sans en faire soi-même partie. Et c'est assez intéressant de voir comment lui utilise la photographie pour trouver cette position un peu délicate de devoir participer à l'effervescence sans être entraîné par elle ou emporté par elle. Et il raconte que effectivement, s'il aime beaucoup les surprises parties, lui-même ne danse pas. Et ça m'a fait penser qu'on l'appelait l'œil de Bamako alors qu'il avait un strabisme. Et finalement, c'est un peu ce regard de côté-là. C'est ce regard un peu fuyant. Donc il se met toujours en plein milieu, il est présent et en même temps, il est toujours dans un retrait qui lui permet de photographier avec un recul nécessaire.
Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez émouvant d'en voir autant, parce que c'est quand même, on voit régulièrement des photos de Malik Sidi B, on en voit rarement autant, ce qui est voilà, normal. C'est quelque chose d'un sacerdoce, en fait, chez cet homme-là, qui a cette distance, mais pour comme s'il devait, lui, enregistrer et offrir un espace de liberté, un espace d'accomplissement, d'épanouissement pour des gens extrêmement différents, et qu'il était simplement quelqu'un qui enregistre une image, mais peut-être aussi une possibilité de bonheur. Enfin, quelque chose d'assez simple. Moi, j'ai eu aussi la chance d'aller dans son atelier à Bamako, et c'est vrai qu'il y avait une... C'est pas une humilité feinte, c'est quand même quelqu'un qui était extrêmement simple et qui faisait un travail, mais presque de service public. Enfin, il y a quelque chose de cela, il me semble. Yasmine aussi.
Mais c'était exactement ça quand on allait dans son studio de Baba Ganji. C'était vraiment ce qu'on ressentait. C'était très drôle parce que les dernières années, il avait eu le Lion d'Or pour l'ensemble de sa carrière à Venise. Donc, il ouvrait tous les matins son studio et il sortait la boîte du Lion et il ouvrait la boîte avec le Lion d'Or qu'il mettait sur une table derrière. Il faut quand même savoir que pourquoi il s'est installé dans ce quartier-là, parce que c'était le seul où il y avait de l'électricité en 62, donc il pouvait prendre les photos pendant assez longtemps. Donc il a photographié jusqu'aux années 80 à peu près. À partir de là, la couleur a pris le relais et puis les gens avaient leurs propres appareils. Et donc lui s'est plus ou moins reconverti dans la réparation de vieux appareils. Ce que je trouve assez fabuleux. Et les gens venaient vraiment, mais les gens venaient pas forcément pour prendre une photo. Les gens venaient, s'asseyaient, lui parlaient. On le voit aussi dans un documentaire.
Oui, c'est un lieu de sociabilité.
C'était vraiment
aussi,
un lieu de sociabilité. Moi, ce que j'ai trouvé aussi fabuleux dans l'exposition, c'est qu'on est vraiment au plus près. D'abord, cette foultitude de photos sur les murs, c'était ça aussi dans son studio. Vous vous souvenez, Arnaud ?
Absolument.
Il y avait les photos qui étaient classées par année dans les boîtes. Et puis après, il y avait ces dossiers dans des fiches cartonnées, dans des chemises cartonnées, qui dormaient vraiment, qui prenaient la poussière. Il y avait le studio. Il y a aussi quelque chose de très émouvant dans l'exposition, c'est les vintage. On les voit rarement, les vintage. On ne voit que les grands formats qui ont été tirés sous son contrôle.
Oui,
hein,
oui.
Parce que c'était un grand tireur. Il adorait ça, lui aussi. Et là, de voir les vintage et la manière dont ils sont éclairés, ou vraiment plus ou moins dans la pénombre, avec la lumière sur le visage, et on a l'impression que ce sont les étoiles de Bamako qui sont là. Moi, c'est l'impression que ça m'a donné. C'était vraiment très beau. Et puis, toujours, cet humour qu'il y avait chez lui. Moi, je me souviens, une fois, on faisait un hors-série pour Télérama sur Robert Doisneau, et on lui avait demandé de commenter une photo. Il devait choisir la photo. Donc, grâce à l'Institut français de Bamako, on lui avait montré un livre avec Doisneau. Il avait choisi une photo, en fait, d'un déjeuner à Montrouge, ou 1945, et c'est quatre adultes et une enfant autour d'une table. Et lui, de ce qu'il avait retenu, c'était qu'il me disait, mais qu'est-ce qu'ils vont manger? Il n'y a que deux poissons et trois pommes de terre. Vraiment tout ça. Et ça, c'était lui, quoi, toujours avec cet humour.
Aucun bémol sur cette exposition? Je cherche un petit peu, là. Sandra, à Dan Corallé.
Une des très bonnes idées de l'exposition pour accompagner les photographies de Malik Sidi B, c'est cette bande sonore qui a été conçue par le commissaire André Magnin, célèbre marchand d'art, grand spécialiste de l'Afrique contemporaine, en collaboration avec Mantia Diawara. Et on peut notamment entendre le titre qui a donné en fait le titre à l'exposition.
Mali
Twist. Je ne sais pas si on l'a encore dit, je ne crois pas, qui est Mali Twist, qui est une chanson de Boubacar Traoré, voilà, qui fut diffusée pour pour la première fois, je crois, en 63, sur les ondes maliennes. Voilà, et dans cette exposition, donc, il y a une playlist comme ça qui nous accompagne, et d'ailleurs qu'on peut retrouver sur Deezer, il me semble.
Sandra, donc, on a les derniers mots.
Pour nuancer cette joie, il y a un très beau film aussi dans l'exposition sur Malik Sidibé, un documentaire de Cosima Spender qui s'appelle Dolce Vita Africana, qui a été réalisé en 2008 et qui donc montre à la fois Sidibé au travail, son studio, son mode de vie, mais aussi qui montre les retrouvailles avec les hommes qu'il avait autrefois photographiés pendant ces années 60-70 dans les surprises parties. Et on en suit certains de ces hommes qui sont devenus adultes et on constate avec eux aussi que l'époque des années twist est bien révolue au Mali. Et ça, c'était une jolie nuance quand même dans l'exposition.
À visiter à la Fondation Cartier pour l'art contemporain, l'exposition Mali Twist consacrée aux photographies de Malik Sidibé. C'est jusqu'au 25 février, un catalogue de l'exposition qui est coédité par la Fondation et par les éditions Xavier Barral. Et avant de conclure tout à fait cette émission, le jeu de la dispute, en commençant par un rappel du jeu d'hier au soir, et tout cela c'est Grégoire Di Fiore qui va le faire.
Pour quel objet ayant appartenu à François Ier, le musée du Louvre a lancé un appel aux dons? Et la réponse était le livre d'heures.
Ce soir, nous faisons gagner des places de cinéma pour le film Hearthstone qui est sorti aujourd'hui dans les salles. Quelle est la question, Grégoire?
Quel film d'Ang Lee raconte les amours bucoliques de deux cow-boys?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter nos émissions et bien sûr vous abonner au podcast. Rendez-vous demain à 19h pour une dispute consacrée à la littérature. Nous serons en compagnie de Raphaël Léris, Elisabeth Franck-Dumas et Lucille Gomeau. À notre sommaire, si un inconnu vous aborde, de Laura Kazischke chez Page à Page, Or de Odur Ava Olavsdottir chez Ulma et Ceux d'ici de Jonathan Dee chez Plomb.